Radico Libre. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radico Libre, dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radico Libre. Mais où est-elle? Eh bien sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler du nouveau gouvernement. Donc, le nouveau Premier ministre est François Bayrou. Repris de justesse car il n'était au courant de rien à propos des emplois fictifs du MoDem au Parlement européen. Déjà ministre en 1993 et élu permanent depuis. Il faisait partie de ceux qu'on appelait les rénovateurs, qui ont tant occupé les espaces médiatiques en 1989. Un mouvement de quadras et trentenaires qui cherchait à déboulonner les vieux, les anciens, ceux qui s'accrochent. Tiens, ben un peu comme lui quand il tempête pour devenir Premier ministre, d'après ce que raconte le journal Le Monde, daté du 21 décembre. Il avait pour camarade de rénovation, puisqu'il était dans les rénovateurs, un certain Michel Barnier, mais aussi François Fillon, Michel Noir, Alain Carignon, tous condamnés pour des abus de bains sociaux ou de la corruption. Il y avait également Philippe de Villiers et Charles Millon qui faisaient du Ciotti avant l'heure, c'est-à-dire des précurseurs de l'alliance entre la droite et l'extrême droite, ce qui n'a jamais été très très loin. Des amis politiques ou simplement des alliés. Ah bah je n'en sais rien. Dans les années 90 et 2000, François Bayrou fait tourner la boutique de l'UDF avec d'anciens faves d'Occident comme Léotard et Madeleine, tout va bien. Et en 2007, il présente sa propre proposition politique. En clair, il ouvre sa boutique avec lui comme chef, le mouvement démocrate, le MoDem. Depuis, il tente sa chance comme pété de la rep, mais rien n'y fait. En 2017, il devient faiseur de roi, comme on dit en République, en appelant à voter pour le mauvais acteur mais vrai banquier qui nous sert de pété de la rep actuellement, Emmanuel Macron. Et il devient ministre de la Justice en 2017. Un ministre de la Justice éphémère puisqu'il est mis en examen pour l'affaire des magouilles de poste au Parlement européen et démissionne dès le mois de juin 2017. Mais c'est pas fini. Et le voilà donc Premier ministre, avec une équipe à manager, des vieux de la vieille, hein, des revenants même, comme Manuel Valls, des permanents de la politique, toujours nommés, comme Gérald Darmanin, des nouveaux qui ne sont pas tant que ça, comme Valérie Létard, qui a déjà été sous-ministre dans le gouvernement Fillon 2 en 2007, et puis des mises en examen pour des magouilles diverses, comme Rachida Dati pour corruption passive et trafic d'influence passif, comme Philippe Tabarot. Le tout nouveau ministre des Transports qui est devenu célèbre par ce qu'il raconte sur « Ah, ça aurait pu être pire !» qui a eu la chance, lui, Philippe Tabarot, d'avoir une sœur maire de Cannes, qu'il a embauchée à 5000 euros par mois et qui a aussi eu la chance d'avoir la même sœur députée Les Républicains qu'il a embauchée comme assistant parlementaire pour plus de 2000 euros par mois. Ça se passait à la fin des années 2010, avant que lui-même devienne sénateur. Le parquet national financier est sur le coup. Bon, et puis après, il y en a d'autres hein, dans le gouvernement qui ont des casseroles assez lourdes aux fesses, comme Aurore Berger, accusée par l'auteur des Ogres, un livre sur les crèches privées paru en 2024, d'avoir été très très proche de Elsa Hervy, déléguée générale de la Fédération française des entreprises de crèches, en gros des crèches privées, au point que Aurore Berger l'aurait protégée, la Elsa Hervy. Ce que nie totalement Aurore Berger, oui. Et ben d'ailleurs, à ce titre, elle est accusée de faux témoignages par le bureau de l'Assemblée nationale, à majorité Nouveau Front Populaire. Ça peut aider sans doute à mettre Aurore Berger le nez dans son caca. Et son dossier a été transmis à la justice. Bon, en tout cas, tout ce beau monde, rassurons le bourgeois, tous les ministres, tous les sous-ministres sont productivistes et libéraux. En économie, ouais, ouais, pas un communiste, pas même un socialiste, donc l'économie socialiste, c'est pas pour maintenant. Mettre plutôt le service rendu, mettre l'ensemble de la société au cœur de l'activité, plutôt que la recherche du profit. Surtout pas. Alors on veut nous faire croire quand même qu'il y a des gens de gauche à l'intérieur de ce gouvernement. Oui, Manuel Valls, Red Sanem à Dijon. Allez en parler à Dijon aux gens de la Lentillière si Red Sanem est de gauche. Il est de gauche comme moi je suis PDG de Rhône-Poulenc, une entreprise qui n'existe plus. C'est pour vous dire à quel point tout ça est crédible. Alors, pas un socialiste, pas un communiste. Non, non, personne qui défendrait la mise à sa place de l'économie. C'est-à-dire bien en deçà des liens sociaux et de la recherche d'une vie simple et tranquille. C'est quand même le but, normalement. Non, non, rassurez-vous. L'ensemble de ce gouvernement est conscient que c'est la quête du profit et la société de consommation qui nous amèneront au bonheur. Ah, bah tiens, moi je suis rassuré. On aurait pu vous parler de la trêve des confiseurs, une période d'une grosse semaine entre les préparatifs de Noël et la remise sur pied après les folies réveillonnesques. Une trêve qui amène les nouveaux ministres à se retrouver en conseil des ministres le 3 janvier, avant un discours de politique générale prononcé par François Bayrou le 14 janvier. Ouah, vous voyez, ça feuilletonne, hein, c'est-à-dire que jusqu'au 14 janvier, ben, on attend. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il va faire? Et pendant ce temps-là, eh ben, la vie continue. Pendant cette trêve, la vie, enfin plutôt le crime contre l'humanité que constitue l'exploitation des ressources humaines, continue. Lundi 23 décembre, plusieurs dizaines de personnes, dont des salariés de l'entreprise Rittling Revalorisation Hauts-de-France, société par action simplifiée située à Rohr en Alsace, une vingtaine de personnes donc... parmi les membres de l'entreprise, sont réunis devant la boîte pour soutenir 4 salariés convoqués pour un entretien préalable à licenciement. Eh ben, ces 4 salariés ont eu l'outrecuidance de demander des comptes au patron sur la présence d'amiante dans les déchets de construction que traitent les salariés de Rittling Revalorisation Hauts-de-France et pour lesquels les protections sont insuffisantes. Mardi 24 décembre, un conducteur de train se suicide en se jetant par la fenêtre du TGV qu'il est en train de conduire. Il était bien sûr au courant des dispositifs dits de la pédale de l'homme mort, une pédale qui auparavant, si on n'appuyait pas assez fort dessus pour la maintenir enfoncée, entraînait un arrêt d'urgence du train. Maintenant, cette pédale est remplacée par des boutons, des manettes à actionner à intervalles réguliers pour dire à la machine qu'il y a quelqu'un au taquet dans la cabine. Le conducteur n'a jamais mis en danger les passagers, contrairement à ce qu'on peut entendre encore.
Ah, irresponsable, en plus surpayé. Hein.
Je le fais bien le beauf, hein. Ouais, faudrait peut-être d'ailleurs que j'essaye de le faire moins bien. Mais un suicide sur son lieu de travail, ça interroge toujours un peu sur les motivations du suicide. Avec la mise en œuvre de plans d'économie lancés par le gouvernement Barnier, nos soi-disant représentants locaux enclenchent des mesures pour réduire les personnels qu'ils gèrent. Comme à Toulouse, où les employés des bibliothèques contractuelles voient leur contrat s'arrêter au 31 décembre. Eh oui, Ah non, la pause des confiseurs, c'est pas pour les exploiteurs. Non, la pause des confiseurs, c'est pour nous. Nous, on se gave. On oublie, on va voir papy, on va voir tati, on va voir maman, on va voir... Oui, mais non, mais pas eux. Eux, ils continuent leur mission. Leur mission étant bousiller nos vies, puisque ça leur permet d'accroître un petit peu leur pouvoir, leur richesse et faire de leur vie quelque chose de vraiment fantastique. Eh bien, les départs en retraite ne seront pas remplacés non plus dans les bibliothèques de Toulouse. Tout va bien, parce que pendant la trêve des confiseurs, je le disais, rien ne s'arrête dans la guerre aux pauvres menée par nos soi-disant représentants. Et comme chaque année en décembre, l'assurance maladie a produit son rapport sur les effets du travail. Comme il ne faut pas désespérer les ressources humaines, aucun média n'a commenté ostensiblement ce rapport intitulé « Rapport annuel 2023 de l'assurance maladie, risque professionnel ». Tout ça n'a pas fait la une. Il y a eu un article dans Le Monde, un autre plus fouillé dans Politis, bah ouais, mais c'est de gauche. L'info a fait le tour des sites internet des organisations syndicales ouvrières, sinon chou blanc. Un rapport officiel où l'on apprend qu'en 2023, officiellement, il y a eu 1287 décès, tous sinistres confondus, dus au travail, 759 décès dus à un accident du travail reconnu officiellement, 332 décès consécutifs à des accidents de trajet reconnus officiellement et 196 décès liés à des maladies professionnelles reconnues officiellement. 1287, ça fait 60 de plus qu'en 2022, qui était déjà un record. On apprend dans ce rapport également qu'il y a eu 717 719 accidents du travail reconnus officiellement, dont 550 000 ayant entraîné un arrêt de travail. 127 310 accidents de trajet qui ont entraîné 332 décès consécutifs à ces accidents de trajet. 68 549 maladies professionnelles reconnues officiellement en 2023 par l'assurance maladie liées donc au travail, puisque ce sont des maladies professionnelles, dont 47 434 ayant entraîné une incapacité temporaire. Sur les 47 434, plus de 41 000 Plus de 41 000 reconnaissances de maladies professionnelles sont liées à des TMS, les troubles musculo-squelettiques. Oui, voilà la réalité officielle des conséquences de l'activité salariale dans le pays. Alors dans une activité, dans une économie socialiste, il y aurait sûrement des accidents, il y aurait sûrement des trucs qui se passent mal. Mais d'abord, pour les accidents de trajet, je suis sûr qu'il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Pensez quand même qu'il y a des gens qui font 50, 60 km par jour pour aller au travail. La même chose pour en revenir. Si vous croisez des adeptes du profit maximum et de l'exploitation des ressources humaines. N'hésitez pas à les renvoyer vers le rapport de l'assurance maladie. Il suffit d'aller sur assurance-maladie.amélie.fr. Assurance-maladie.amélie.fr. Vous cherchez dans études et données. Et là, 2023, rapport annuel assurance maladie risque professionnel. On aurait pu vous parler de l'utilisation de la justice pour permettre aux destructeurs de nos milieux de vie de continuer leurs activités. La première technique, c'est de ne pas empêcher les travaux par des appels suspensifs qui traînent en longueur. Nous en parlions la dernière fois à propos des méga-bassines de l'autoroute A69. Eh bien, il y en a d'autres qui font autre chose. Mais comme on n'a pas vraiment le temps, on en reparlera la prochaine fois. Eh bien, sinon, on a préféré vous parler de quoi ? Devinez, encore une fois, de la Syrie, et plus particulièrement du Rojava. La dernière fois, nous avions passé la première partie d'une interview réalisée en 2021 à l'occasion de la venue de Pierre Bance au Mans, invité par l'UCL, l'Union communiste libertaire, l'auteur de « La fascinante démocratie du Rojava » aux éditions Rouge et Noir, avait bien voulu répondre à nos questions. Eh bien, voilà la suite. Donc nous y revoilà au Rojava, ou plus précisément dans la Fédération de la Syrie du Nord et de l'Est, qui regroupe les régions à majorité kurde du Rojava et les quatre régions arabes libérées de l'emprise de l'État islamique en Irak et en Syrie, ce qui donne ISIS en anglais. Donc sept régions en tout, Cizre, Euphrate, Efrin, ça c'est pour le Rojava, ce sont les trois régions à majorité kurde, et puis Raqqa, Tabqa, Manbij, Deir ez-Zor, là ce sont les régions arabes. Libérés donc par les Kurdes des YPG, les milices dont on a entendu parler. Pierre Bance, qui intervenait samedi 9 octobre dans le cadre d'une après-midi consacrée au Rojava organisée par l'UCL et la CNT, dans son livre « La fascinante démocratie du Rojava » aux éditions Rouge et Noir, disponible dans toutes les bonnes librairies, ça c'est fait, eh bien Pierre Bance nous rappelle à quelle occasion l'Occident a entendu parler du Rojava. On est page 17 du livre, je cite. L'Occident a pris connaissance du Rojava par les luttes que sa milice a menées contre l'État islamique et les victoires qu'elle a remportées depuis Kobané en janvier 2015 jusqu'à Baghouz en mars 2019. C'est l'Occident, il l'a plaint après les trahisons de Vladimir Poutine et de Donald Trump et les invasions de l'ogre turc qui s'en sont suivies en janvier 2018 et en octobre 2019. Ces médias l'ont idéalisé avec des images d'Hollywood surfant sur la souffrance des combattantes kurdes. En effet, on les voyait, ces femmes armées qui mouraient régulièrement, parce que pendant la guerre, malheureusement, les combattants meurent. Et ça a été l'occasion pour des Caroline Forest et compagnie de nous faire des films sur le féminisme guerrier. On ne peut s'en tenir là. Le Rojava, c'est plus que des batailles militaires, c'est aussi une bataille des idées. Voilà pourquoi cette démocratie d'un nouveau type dérange les gouvernements des démocraties occidentales, glace ceux du Moyen-Orient. Voilà pourquoi elle intéresse aussi les démocrates de gauche qui peuvent y trouver matière à rénover une doctrine déconsidérée par l'exercice du pouvoir. Que de droite pour épousseter un système de représentation contesté. Elle intéresse également les révolutionnaires. S'ils sont plutôt marxistes, ils y verront un système étatique plus présentable que la dictature du prolétariat léniniste et une reconsidération de la théorie du dépérissement de l'État. S'ils sont plutôt anarchistes, ils seront confrontés à la question de la compatibilité d'un État minimal avec une société libertaire dont ils sont convaincus qu'elle doit être sans État. Autant de raisons pour construire dans ce livre, à partir d'une lecture analytique du contrat social, un objet. L'administration autonome de la Syrie du Nord, dans sa triple dimension du droit, de la pratique institutionnelle et de la critique politique. La démarche, aussi éloignée de l'enthousiasme romantique que de la condamnation dogmatique, veut comprendre une révolution plutôt que de l'aimer ou de la rêver. Donc, dans l'émission du 16 octobre 2021, nous avions commencé à décortiquer l'assemblage constitutionnel de la Fédération pour arriver au rôle de la commune qui, normalement, sert de base au confédéralisme démocratique, c'est-à-dire la forme kurde du, en plus grand, du municipalisme libertaire demeurait Bookchine. Alors, quelle place pour la commune dans la fédération ? On retrouve Pierre Bance.
Cependant, on pourrait dire que dans le contrat social, quand même, il y a une petite ambiguïté, parce qu'il dit très clairement que la commune est la base de la société, et en même temps, il ne l'inscrit pas dans les institutions. Hein. Les institutions, elles commencent à la municipalité, puis après le district, le canton, la région et la fédération.
Ça veut dire que la commune n'est pas identique à la municipalité. Non. Donc il y a eu des élections pour élire un maire, un conseil municipal. Et les communes, comme tu disais, sont des sortes de comités de vigilance des besoins du quartier, quand ce sont des villes ou des besoins du village.
Oui, c'est ça. C'est plutôt une sorte d'union locale hein, des citoyens. Ils rendent des services, hein, ils organisent des choses. Hein. Je ne dis pas qu'ils font rien du tout, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais ce n'est pas eux qui décident de ce qu'on va faire. Parce que dans une municipalité ou un district, il y a plusieurs communes. Hein. Il peut y avoir dans les grandes villes, il y en a des dizaines. Et le concept de commune là-bas est assez souple. Hein. C'est-à-dire, c'est pas réglementé la taille d'une commune. Et puis aussi, il y a une ambiguïté linguistique. C'est que, par exemple, des étudiants peuvent faire une commune. Des chrétiens peuvent faire une commune. Des avocats peuvent faire leur commune. Donc ça, c'est plutôt des comités, mais dans le langage, tout ça, c'est un peu mélangé. Alors, il faut mieux parler de la commune territoriale, c'est déjà plus facile. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'il existe à côté des communes une organisation civile qui s'appelle le TEFDEM, donc c'est le mouvement de la société démocratique. C'est une sorte de plateforme qui regroupe tous ceux qui veulent y aller, c'est-à-dire les partis, les syndicats, les associations, les religieux, et même on peut même y adhérer individuellement si l'on veut. Donc ce TEFDEM, qui avait été créé juste avant la Révolution, c'est lui qui avait pour but d'installer les communes, justement. Là, il se répandait dans tout le pays pour inciter à la création des communes. Alors ce TEFDEM, il a un rôle. Alors justement, ce n'est pas la représentation des communes, c'est autre chose, puisque les communes, elles peuvent aussi en faire partie, mais elles ne sont pas le seul. C'est autre chose, c'est un mouvement social qui devrait jouer un peu un rôle de contre-pouvoir par rapport aux institutions politiques. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux ou trois ans, lors de son dernier congrès, il a réformé ses statuts pour minimiser le rôle des partis politiques, parce qu'il y avait dans le TEFDEM, il y avait un comité politique qui était constitué des partis dominants. Alors il agit, hein, il agit surtout comme... plus qu'un contre-pouvoir, c'est plutôt un éveilleur des consciences. Il ne se met pas, il ne s'affronte pas directement avec le pouvoir. Bon, ce qu'il faut préciser, c'est que là-bas, il y a un parti dominant.
Ah, il y a un parti dominant. Donc il apparaît que se superposent des organisations, mais qui ont des vues identiques, à mener la fédération de la Syrie du Nord et de l'Est vers plus de démocratie, et en l'occurrence plus de démocratie directe, qui, je le rappelle quand même, est la seule démocratie, puisque la démocratie représentative consiste à prêter son pouvoir pendant un temps donné, ce qu'on appelle un mandat, à des gens qui en font un peu ce qu'ils veulent. À la fin de cet extrait, on entend qu'il existe un parti dominant, un parti d'avant-garde, un parti révolutionnaire. Ça nous a rappelé une sentence sans appel d'un certain Murray Bookchine qui, je le rappelle, a servi un petit peu de base au confédéralisme démocratique qui est une version du municipalisme libertaire agrémenté d'idées d'autres penseurs qui a été pensé justement par un certain Abdullah Öcalan qui est le chef fondateur du des fondateurs, mais surtout le chef du PKK, le parti des travailleurs kurdes, qui était un parti marxiste-léniniste et qui a un peu changé. En tout cas, en 1969, dans un texte qui s'intitule « Écoute, camarade », comme une lettre ouverte à propos du Progressive Labour, un parti révolutionnaire états-unien, Murray Bookchine, après avoir décrit quelques moments révolutionnaires à travers l'histoire, comme la Révolution française et plus près de nous, l'Espagne de 1936, eh bien, il écrit ceci à propos des partis d'avant-garde. Il faut se demander quel est le rôle du Parti révolutionnaire dans ce genre d'événement. Au début, comme nous l'avons vu, il a tendance à jouer un rôle inhibiteur, plutôt qu'un rôle d'avant-garde. Là où il exerce son influence, il tente à ralentir le déroulement des événements plutôt que de coordonner les forces révolutionnaires. Ceci n'est pas un accident. Le parti est organisé selon des lignes hiérarchiques qui reflètent la société même à laquelle il prétend s'opposer. Malgré ses prétentions théoriques, c'est un organe bourgeois, un État en miniature, doté d'un appareil et d'un cadre dont la fonction est de prendre le pouvoir, pas de le dissoudre. Enraciné dans la période pré-révolutionnaire, il assimile toutes les formes, les techniques et la mentalité de la bureaucratie. Les membres sont formés à l'obéissance, aux préconceptions d'un dogme rigide. Ils ont appris à révérer la direction. À l'inverse, la direction du parti est formée à l'école du commandement, de l'autorité, de la manipulation et de l'égomanie. La situation est encore pire lorsque le parti prend part au jeu électoral. À cause des exigences de la campagne électorale, le parti est obligé de copier dans leur totalité les formes bourgeoises existantes. Il acquiert même l'attirail d'un parti électoraliste. Ce fait devient déterminant quand le parti acquiert du matériel d'imprimerie, un éventail étendu de périodiques qu'il contrôle, un siège coûteux et lorsqu'il sécrète un appareil de permanent rétribué, c'est-à-dire une bureaucratie et les investissements matériels qui l'accompagnent. Au fur et à mesure que le parti grandit, la distance qui sépare la direction de la base croît immanquablement. Ces chefs deviennent des personnalités et perdent le contact avec la vie réelle de la base. Les groupes locaux qui appréhendent leur véritable situation, beaucoup mieux que n'importe quel chef lointain, sont obligés de subordonner leur compréhension aux directives venues d'en haut. La direction qui a fait défaut... Je reprends. La direction, à qui fait défaut toute connaissance directe des problèmes locaux, réagit avec une lenteur et une prudence exagérées, bien qu'elle prétende posséder une vue globale des choses et une compétence théorique supérieure. La compétence de la direction a tendance à diminuer en raison de la proximité du sommet de la hiérarchie. Plus on est près du niveau où les véritables décisions sont prises, plus le processus de décision est conservateur. Plus elles sont prises en fonction d'intérêts bureaucratiques et étrangers au parti, plus les préoccupations de prestige et de stabilité remplaçant la créativité, l'imagination et un dévouement désintéressé aux objectifs révolutionnaires. Voilà, c'est ce que disait à propos des partis d'avant-garde Murray Bookchin en 1969. Alors, qu'en est-il au Rojava à propos de ce parti dominant? Écoutons Pierre Banse.
Là-bas, il y a un parti dominant. C'est le parti de l'Union démocratique, c'est le parti frère du PKK. Disons tout de suite que s'il n'existait pas, il n'y aurait pas de révolution et tout s'écroulerait. Mais en même temps, il contrôle à peu près tout. À sa décharge, il dit qu'il est une avant-garde peut-être, mais une avant-garde qui a pour but d'instruire la population pour qu'elle adhère aux idées de la démocratie directe, etc. D'une certaine façon, il concourt à sa propre perte s'il arrivait à ses fins. Et il le fait, effectivement, je crois, oui, il le fait. Bon, il est partout, mais il n'est pas autoritaire, je crois. Ouais, on ne peut pas dire ça. Ce qu'on peut en voir, ce qu'on peut en lire, parce qu'il n'est pas autoritaire. Il essaie de tenir compte de ce que disent les populations.
Eh bien, les partis politiques des pays démocratiques, entre guillemets, devraient en prendre de la graine. Donc, le PYD ne serait pas autoritaire. Tant mieux. Il concourt à sa perte. Tant mieux. À noter qu'en 2011, quand même, au début de la révolution, des centaines de comités locaux d'organisation ont émergé dans toute la Syrie, notamment sous la houlette de Omar Aziz, un militant anarchiste syrien mort en prison en 2013. Et ces comités n'ont pas été réactivés en 2015, lorsque les troupes kurdes, les YPG, ont commencé à reprendre du terrain sur l'État islamique. Un parti domine donc, mais le voilà contraint par un texte, le contrat social de la fédération qui a été adopté fin 2016. Et on peut en lire dans l'article 6 intitulé « Le serment ». Au nom de Dieu Tout-Puissant et du sang des martyrs, je jure de respecter le contrat social et ses articles, de préserver les droits démocratiques des peuples et les valeurs des martyrs, de protéger la liberté, la sécurité et la paix des régions de la Fédération démocratique de la Syrie du Nord, de préserver l'unité de la Syrie et de travailler à atteindre la justice dans la société en accord avec les principes de la nation démocratique. Une référence à Dieu, à une Syrie unie, d'accord, mais aussi au principe de la nation démocratique, je vais y arriver, des principes que l'on retrouve par exemple dans le titre 2. Le titre 2 intitulé « Droit et liberté générale ». Par exemple, à l'article 17, on peut lire « La Fédération démocratique de la Syrie du Nord respecte la Déclaration internationale des droits de l'homme et toutes les chartes de droits de l'homme associées ». Garantie des libertés fondamentales et notamment de l'égalité en droit. Dans la réalité, qu'en est-il ? Pierre Banse nous en dit plus.
Alors certainement, il faut faire une différence entre les villes et les campagnes, et entre leur Rojava et les régions libérées, les régions arabes libérées. Dans les villes du Rojava, la question ne se pose pas. L'émancipation des femmes est réelle. Même dans les institutions, on voit que il y a des femmes fortes au Rojava, hein, plusieurs femmes qui sont des dirigeants de premier plan. Et pour les ethnies, je pense que les gens ont compris l'intérêt de vivre ensemble. Pour ce qui est des campagnes, il y a des résistances, c'est sûr. Il y a des choses que même dans les régions kurdes qui ne sont pas encore bien comprises, par exemple sur l'émancipation des femmes. Hein. On sait que la polygamie, ça existe, et que les gens ne sont pas forcément prêts à l'abandonner. Hein. Alors on a un militant vraiment historique qui s'appelle Salim Muslim, qui dit, si je vais dans mon village et que je leur dis que si je leur dis que la polygamie, c'est fini, ils vont me foutre dehors, quoi. Ils vont me chasser du village, alors que c'est une autorité à contester. Donc voilà, alors, on comprend bien que dans les zones arabes, si on a vu quelques images de ce qu'était la région de Deir ez-Zor, par exemple, hein, avec toutes les femmes masquées, elles l'étaient avant ISIS aussi. Hein. C'est pas ISIS qui les a tous fait voiler complètement, hein. Elles l'étaient avant. Donc c'est difficile, là, il y a les femmes de ces régions, donc des militantes qui font des gros efforts pour essayer d'émanciper les femmes, au risque de leur vie même. Hein. Oui, il y a quelque chose, oui. C'est pas du blabla, c'est pas de la propagande. Ils agissent, ils appliquent les droits de l'homme, ils le disent d'ailleurs, dans le contrat social, c'est indiqué qu'ils appliquent toutes les conventions et traités internationaux sur les droits de l'homme. Donc c'est clair, et ils le font. Par exemple, sur la liberté de la presse, bon, elle est à peu près respectée. Bon, il y a des dérapages, mais chez nous aussi, il y a des dérapages. Hein. Sur la liberté d'aller et venir, elle est respectée. Bon, mais il y a des contraintes liées à la guerre. Il y a des points de contrôle, hein, forcément, un peu partout, pour éviter les attentats. Sur la liberté scolaire, elle est tout à fait respectée, mais il y a des difficultés, par exemple, avec certaines populations, notamment les populations plus bourgeoises, les populations plus chrétiennes, puisqu'ils ont révisé le programme syrien en faisant disparaître tout l'aspect nationaliste, étatiste de l'État-nation, etc. Ils ont refait un programme, ils disent « mais votre programme, il n'a aucune valeur, donc nous, on préfère appliquer le programme syrien ». Parce que nos enfants, plus tard, s'ils veulent aller poursuivre leurs études à l'étranger ou même en Syrie, on leur dira que leur diplôme du Rojava, c'est pas reconnu, ouais, ça sert à rien. Donc il y a eu vraiment des frictions, on va dire, des frictions avec les écoles privées chrétiennes, où ils sont arrivés à un compromis à la moyenne orientale. Il faut un peu les deux, quoi. D'accord.
La réalité culturelle et les difficultés de reconnaissance internationale entravent donc en partie l'application du contrat social. Mais des avancées significatives existent avec, au quotidien, d'autres difficultés qui viennent se plaquer, notamment cette histoire d'école qui peut paraître complètement délirante, mais il est vrai que des parents ont sans doute en vue l'avenir de leurs enfants, même s'ils peuvent penser que le Rojava, la fédération, ont des textes qui sont plutôt positifs. Et voilà, la prochaine fois, nous aborderons l'aspect économique et nous donnerons la conclusion à Pierre Banse avant de revenir sur l'actualité brûlante de la Syrie en ce mois de décembre 2024. Bon, du coup, à la prochaine fois. Ah non, d'habitude, je dis allez, au revoir.